VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Bion, bonjour à tous. Il est 11h en temps universel. Le ministère de la Justice soudanais a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord avec les proches de marins américains tués dans l'attentat contre le navire de guerre USS Cole au Yémen en 2000. L'accord a été signé le 7 février à Washington afin de remplir une condition clé en vue du retrait du Soudan de la liste américaine des États soutenant le terrorisme, a indiqué le ministère dans un communiqué sans préciser le montant des compensations. L'attaque qui a fait 17 morts a été revendiquée par Al-Qaïda et selon la justice américaine, les deux kamikazes s'étaient entraînés au Soudan. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo est en route pour sa première visite en Afrique qui doit commencer après sa participation à la conférence de Munich sur la sécurité. Sa première étape sur le continent sera le Sénégal où M. Pompeo doit s'entretenir avec le président Macky Sall. M. Pompeo doit aussi se rendre en Angola et en Éthiopie. Le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest multiplie les attaques dans le nord-est du Nigeria. Une recrudescence des attaques inquiétantes pour le président Muhammadu Buhari, qui s'est rendu dans la région mardi, Bagassikoura.
Lundi, des combattants de ce groupe ont attaqué un poste militaire dans le village de Tungushe, près de Maïdougouri, tuant un soldat et blessant un autre. Les insurgés se sont ensuite rendus dans la ville voisine de Gayigana. Ils ont tué un autre soldat et ont emporté un véhicule militaire. À Ran, à la frontière avec le Cameroun, des insurgés arrivés à moto et des véhicules équipés de mitrailleuses ont attaqué les positions militaires. Quelques 35 000 déplacés ont trouvé refuge dans cette ville, qui a déjà subi des attaques répétées, le personnel humanitaire n'y a plus accès pour des raisons de sécurité. Le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest a revendiqué la responsabilité de ces trois attaques. Dimanche, au moins 30 civils ont été tués, la plupart brûlés vifs près du village d'Ono. Ce massacre n'a pas été revendiqué. Le président Muhammadu Buhari a effectué hier une brève visite surprise à Maïdougouri. Il est très critiqué pour son bilan sécuritaire. Il n'a pas mis fin au conflit et ne parvient pas à réduire l'insécurité qui gangrène le reste du pays. Le gouverneur de l'État du Borno, Babagana Zulum, proche du président Buhari, a d'ailleurs jeté un pavé dans la mare lundi en critiquant avec virulence l'inaction de l'armée nigériane pour rétablir une base à Ono, attaquée 6 fois depuis le début de l'année. Selon lui, rien n'a été fait dans ce sens malgré nos demandes répétées, a regretté le gouverneur.
Le Pentagone a annoncé mercredi un premier ajustement de ses forces en Afrique avec le rapatriement d'une unité de combat qui sera remplacée par des instructeurs chargés de former leurs collègues africains. Les États-Unis veulent réduire leurs opérations anti-djihadistes dans le monde pour mieux se préparer à répondre à ce qu'ils considèrent comme une menace de la Russie et de la Chine envers leur suprématie militaire dans le monde. Le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé hier pour la première fois une résolution réclamant un cessez-le-feu durable en Libye qui succède dans ce pays à la trêve fragile observée depuis janvier. Le texte rédigé par le Royaume-Uni a été approuvé par 14 voix sur 15. La Russie s'est abstenue. La résolution a fait l'objet d'âpres discussions pendant plus de 3 semaines, illustrant des divisions internationales persistantes malgré l'unité affichée lors du sommet de Berlin le 19 janvier, impliquant les présidents russes et turcs qui soutiennent chacun un des deux camps opposés en Libye.
Nos infos sur voaafrique.com.
En Guinée, les manifestations ont repris hier après une pause de quelques semaines. Le pays doit tenir le 1er mars des élections législatives couplées à un référendum constitutionnel. L'opposition guinéenne dénonce une manœuvre du président Alpha Condé pour briguer un troisième mandat à Ikiabadou.
L'appel du collectif de partis d'opposition, syndicats et sociétés civiles a provoqué quelques troubles dans certains endroits de Conakry, a indiqué le ministère de la Sécurité. Le mouvement n'est quasiment pas suivi à l'intérieur du pays, hormis à Koya, à 40 km de Conakry, où il y a eu des barricades, selon le ministère. La Guinée est le théâtre depuis la mi-octobre de protestations contre le projet prêté au président Alpha Condé de chercher à se succéder fin 2020. L'actuelle constitution limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. Un projet de nouvelle constitution sera soumis à référendum le 1er mars, en même temps que des législatives. L'opposition soupçonne que son adoption servirait de prétexte à M. Condé, 81 ans, de briguer un autre mandat. Alpha Condé entretient le flou en affirmant que c'est son parti qui décidera. Il a aussi défendu le référendum, jugeant qu'il n'y a rien de plus démocratique.
Célébration aujourd'hui, jeudi 13 février, de la Journée mondiale de la radio. Au Gabon, selon notre correspondant à Libreville, la capitale, Ismaël Obiangizé, le média domine toujours malgré la concurrence.
Urban FM, la première radio urbaine du Gabon, est un exemple de station radio qui a su s'adapter aux nouvelles tendances.
On a trois studios, on a un bleu, on a un jaune et notre studio mobile.
Ici, la musique est reine, mais pas seulement. La radio va au-delà du divertissement pour aborder les questions de société. Au Cos Simplice, l'un de ses animateurs tient une tranche de programme interactif.
Allô.
La mise en scène des émissions d'Urban FM est facilitée par une plateforme technique moderne.
On a ici donc une table de mixage et toute la diffusion en studio de ce côté-là. Donc c'est les appareils qui nous permettent, nous, de relier tout ce qui est affaires téléphoniques, table de mixage aux ordinateurs et aux écrans.
Le Gabon compte actuellement une cinquantaine de radios, dont des radios publiques, privées et communautaires. Même si cette pléthore de stations cache encore d'énormes carences, quelques-unes semblent se distinguer. Nick Jocelyn Fouba est chef de service des actualités à Radio Gabon.
Vous avez un très bon élément, mais qui n'est pas de bonne qualité. Vraiment, ça dénature votre journal. Aujourd'hui, avec l'avènement du numérique, tous nos correspondants nous envoient des éléments maintenant par WhatsApp, par exemple, et la qualité du son est géniale.
Les professionnels du métier sont unanimes sur les progrès qu'offrent les nouvelles technologies numériques, contrairement à la radio analogique. Un avis que ne partage pas Pierre Zassi, journaliste producteur à la Radio Nationale.
Aujourd'hui, si vous n'avez pas Internet, vous êtes dans le néant. Or, nous, on nous apprenait à faire le montage sur le Nagra, on nous apprenait à faire le montage sur le Sareg ou encore le Sud-Berger. Et on nous apprenait aussi à faire le montage à travers les cassettes. Aujourd'hui, vous demandez aux jeunes, ils vous diront que c'est de l'ancestralité.
C'est tout le mythe de la bonne vieille radio qui est ici en débat. Blanche Bitta, journaliste à la deuxième chaîne publique du Gabon, reste nostalgique d'un passé glorieux des grandes radios africaines.
C'est fini la radio de nos voix. Il y a des voix qui ont bercé notre enfance. Les Patrick Guimandon, Sergio Pout au Cameroun, Moïse Benteke, paix à son âme. Tu avais l'impression de la vivre en fait. Je me souviens par exemple, pour parler de Patrick Guimandon, de l'émission Les Aventures Mystérieuses, c'était un film radiophonique, mais tu avais l'impression de voir le film.
Libreville, Ismaël Obiangizé, VOA Afrique.
Voilà, vive la radio. L'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo demeure encore une urgence internationale et cela pour 3 mois. L'OMS a annoncé hier la décision après une réunion à Genève. Eddy Sango.
L'épidémie doit continuer d'être une urgence internationale, a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, à l'issue d'une réunion des spécialistes de la maladie. Selon lui, une chute du nombre de cas extrêmement positifs est enregistrée depuis quelque temps. Tedros Ghebreyesus se déclare encouragé par la tendance à la baisse, mais estime que tant qu'il y aura encore un seul cas d'Ebola dans une région dangereuse et instable comme l'est de la RDC, des potentiels existe pour une épidémie bien plus grande. L'OMS a en juillet qualifié d'urgence mondiale l'épidémie d'Ebola, une dénomination régulièrement soumise à un comité d'experts. L'épidémie s'est déclarée en août 2018 dans la localité de Mangina et sévit dans les régions du Nord Kivu et de l'Ituri. Environ 2300 décès ont été enregistrés. Il faut 42 jours sans nouveau cas pour que l'OMS annonce la fin de l'épidémie. Le chef de l'OMS a indiqué qu'il s'est rendu aujourd'hui en RDC pour rencontrer le président Félix Tshisekedi et parler notamment du renforcement du système de santé dans le pays.
Et puis les autorités sanitaires de la province chinoise du Hubei, foyer de l'épidémie de coronavirus, ont fait état jeudi de 242 décès supplémentaires liés au virus, un record au cours d'une seule journée depuis que l'épidémie s'est déclarée en décembre dernier. Dans son point quotidien, la commission sanitaire du Hubei a déclaré aujourd'hui que le bilan du coronavirus était porté à 1310 morts dans la province. Cette annonce intervient alors que l'Organisation mondiale de la santé s'est montrée mercredi très prudente sur l'apparent ralentissement de l'épidémie de coronavirus, lequel, à telle 17 semaines, doit être considéré par la communauté internationale comme l'ennemi public numéro 1. Jean-Roger Billon à ce micro, vous retrouverez dans 50 minutes. Henri Francisque pour un nouveau journal. Bon après-midi à tous.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.